Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3,
c'est fac.
Ça part ici.
C'est alors qu'il faut marcher. Marcher tout seul. Il faut marcher. Marcher tout seul. C'est alors qu'il faut marcher. Marcher tout seul. Marcher. Marcher tout seul. Marcher tout seul.
Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission À nous le futur, encore une fois. Mon nom, c'est Claude Saint-Jean. Je vous souhaite une belle journée, de la santé, de la joie. Et puis, je voulais vous dire tout de suite qu'il existe une formation pour les premiers secours psychologiques. Ça va se donner au Baobab le 14 à 18h30. Et puis, je voudrais vous dire aussi que ce matin, j'ai relu mon livre de Jane Goodall, dont je vous cite parfois des extraits. C'est elle qui est décédée récemment, mais qui nous disait qu'il y avait de l'espoir pour un beau futur. Puis, en relisant, les idées principales, c'est que nous avons une marge de manœuvre aujourd'hui, malgré toutes les crises et les problèmes qu'il y a, pour réparer les dégâts, puis en même temps, bien, nous donner une belle qualité de vie. C'est un peu ce qu'elle disait, puis ce que je relis, puis je vais vous donner l'essence de ce qu'elle disait. Et fait qu'aujourd'hui, nous avons le bonheur d'avoir M. Sean Robitaille qui est avec nous. Bonjour, M. Robitaille. M. Robitaille travaille pour un groupe qui aide les hommes, c'est Momentum. Donc, le but de l'entrevue, c'est de poser des questions exactement sur son travail et sur ce que c'est. Puis, en parenthèse, si vous regardez le journal Regard, il écrit un article dans la prochaine parution du journal Regard. Alors, bonjour, M. Robitaille, bienvenue ici à l'émission À nous le futur.
Bonjour, bonjour. Et je sais qu'on a changé un peu les invités, c'est Sean de La Rochelle.
Ah oui, c'est
oui,
vrai,
oui, c'est ça, parce que Luc, c'est juste avant. Mais oui, merci. Mais oui, je suis très content d'être là.
OK, bon, d'accord. Fait que vous êtes avec Momentum, ça, je l'ai.
Absolument.
Fait que c'est quoi cet organisme-là, Momentum, pour lequel vous travaillez?
Bien, Momentum, c'est un organisme qui s'occupe de... qui est généraliste, qui s'occupe du bien-être des hommes. Dans le fond, on offre plusieurs services psychosociaux, que ce soit des rencontres un pour un, on offre des ateliers ouverts à tous. Donc, Momentum, on se voit d'être un organisme communautaire généraliste pour les hommes qui aimeraient avoir du support dans des situations de vulnérabilité. C'est pas mal ça.
D'accord. Puis votre rôle à vous, votre fonction?
Oui, moi, dans le fond, je m'occupe du développement de Momentum, donc tous les gros projets, et je m'occupe aussi de tout ce qui est la programmation culturelle, dans le fond. Donc, je suis vraiment dans le centre de toutes les activités là, de Momentum.
Mm-hmm. Puis, pour faire face à la crise spéciale que vivent peut-être les hommes, c'est quoi la crise spéciale qu'ils ont, s'il y en a une?
C'est toute qu'une question, hein? Il y a beaucoup de volets à ça. Si on peut commencer au départ de tout ça, c'est, oui. C'est Guy Corneau, en fait, les années 90. C'est un analyste jungien qui est assez connu dans le milieu. Oui. Il a fait plusieurs groupes d'écoute, dont Réseau Hommes Québec. Il avait aussi fait Réseau Femmes, pour que c'était des groupes d'écoute justement pour ses analyses à lui et tout ça. Puis Momentum, dans le fond, dans les années environ fin 90-2000, a repris cette recette-là, l'a mis à sa sauce à nous, finalement. Et dans le fond, en 2000, on a décidé... Ça a commencé avec un groupe qui s'appelait Les Gars. Puis le 27 juillet 2000, quand on a vu avec plusieurs bénévoles le besoin d'un tel service, on a changé le nom pour Momentum à partir du 27 juillet 2000.
Mm-hmm.
Fait que... Puis pour ce qui est du côté psychosocial, c'est vraiment le cas Guy Turcotte. T'sais, je pense pas qu'on a besoin d'en parler... beaucoup, là, tout le monde connaît ce cas-là, qui a vraiment secoué les bases.
2009.
Ouais, exact. 2009, ça a secoué les bases. Là. On a été un 10 ans à faire des groupes d'écoute. C'est le cas de Guy Turcotte qui a fait en sorte que Momentum a comme revisité ses besoins, a revisité les services qu'il fallait qu'il offre. Parce qu'on s'est rendu compte que l'homme a des problèmes qui, oui, on connaissait déjà la base des problèmes, mais on s'est rendu compte à quel point c'était... un besoin grandissant. Mm-hmm. Puis c'est là qu'on a instauré notre premier service psychosocial en one-on-one. Et depuis ce temps-là, ben les services continuent à évoluer.
Mm-hmm. Guy Corneau, je pense qu'il faisait une émission à Télé-Québec, je crois.
Oui. Oui.
Peut-être avec Jeannette Bertrand.
Je pourrais pas dire, mais je sais qu'il faisait un show TV, oui, entre autres.
Puis moi, j'avais lu son livre parce que j'étais un nouveau père, puis il m'avait impressionné. Mm-hmm. Puis ça m'avait amené à m'intéresser à la condition masculine.
Oui.
Puis M. Turcotte, c'était pas un médecin, puis il avait été violent.
C'était un cardiologue, si je crois que c'était un cardiologue. Puis il y a malheureusement, dû à plusieurs, en tout cas, problèmes quelconques dans sa vie. Malheureusement, sa famille a péri à ses mains. Puis autant que ça a suscité beaucoup de réactions au Québec, puis beaucoup de réactions de haine, parce qu'on s'entend, c'est, oui, c'est quelque chose qui est complètement terrible et inexcusable, oui, ça apportait quand même la question face à la société de comment qu'on peut faire pour aider les hommes, justement. Mm-hmm. Tu sais, des gens comme Guy Turcotte qui sont arrivés à ce point-là, mm-hmm, le pourquoi, qu'est-ce qu'on aurait pu faire et tout ça. Donc, ça a amené beaucoup de remises en question des services, autant pour Momentum que pour plusieurs personnes de la société. Puis on peut remercier Guy Corneau qui, à la base, a été un élément pivotant dans les années 90 pour amener cette question-là sur la table à la base. Mm-hmm.
Puis M. Turcotte aussi, c'était quelqu'un d'éduqué, tu sais.
Exact, exact.
Que, d'habitude, on avait l'image que quelqu'un d'éduqué n'est pas violent.
Oui, ça allait complètement contre le stéréotype. T'sais, on entend un stéréotype de quelqu'un qui a fait un tel crime. Ce qui est plat, c'est que la majorité des gens vont s'imaginer un profil particulier, mais je suis prêt à mettre ma main au feu que la plupart ne diront pas que c'était un cardiologue avec combien d'années d'expérience, avec combien d'études, avec, tu sais, ça allait un peu contre le stéréotype, finalement. Là.
D'accord. Puis moi-même, hier, je prenais une marche et il y avait une maison, la fenêtre était ouverte, puis j'entendais quelqu'un crier, mm-hmm, à son enfant, « Arrête de crier ». Mais, mm-hmm, tu sais, la personne criait pour dire « Arrête de crier ».
Absolument.
Puis là, l'enfant criait en réponse. Puis là, je voyais que de toute évidence que tu ne peux pas crier pour dire à quelqu'un d'arrêter de crier.
Non, exact.
Faut que tu sois calme, c'est ça.
Oui, puis c'est parce qu'il y a tellement une approche qui doit être spécifique parce qu'on dirait que on le dit souvent, mais on s'en rend compte. Puis moi, je ne m'en suis pas rendu encore compte parce que je n'ai pas d'enfant encore. Mm-hmm. Mais on le dit tellement souvent que tout ce qu'on fait aux yeux d'un enfant va rester comme bagage pour la suite. Mm-hmm. Mais c'est quand moi, j'ai entendu nombre de fois que c'est quand on a l'enfant qu'on s'en rend compte à quel point c'est vrai, là. Mm-hmm. De crier après l'enfant, le monde va dire que c'est peut-être banal, mais si c'est répété à plusieurs fois, mm-hmm, les effets peuvent être, ouais, grandissants. Là, en, ouais, bout de ligne, là, ça peut créer de l'anxiété, ça peut créer de l'agressivité. On ne sait pas ce que ça peut faire. Là. Mm-hmm.
Puis donc, on a commencé peut-être à en parler, là, mm-hmm, mais les hommes ont des problèmes particuliers.
Oui.
De votre point de vue, c'est quoi ces problèmes-là?
Encore une fois, ça revient au commentaire du début que c'est une question qui a tellement de volets, mais okay, ouais, à la base, je crois que l'homme, de par comment que l'homme a eu sa place dans la société pendant des années, autant, puis on parle des 100 ans en arrière, l'homme a toujours eu une place de... puis je dis domination, mais pas domination dans le sens tragique, dans un sens de on doit être le pourvoyeur, on doit être le leader, l'homme doit être fort, doit se tenir debout, doit être la forteresse de la famille, la forteresse de sa société. Puis autant que d'un sens, ça peut apporter une certaine fortitude, mais de l'autre côté, c'est que ça... On voit que l'effet que ça a eu de l'autre côté, c'est que l'homme n'avait pas le droit à la faiblesse. Mm-hmm. Puis là, c'est sûr que je généralise, mais avec les années, ça change. Mais pendant des années, l'homme ne pouvait pas être vu comme faible. L'homme devait être victorieux pour écrire son histoire. Mm-hmm. Et si l'homme montrait un signe de faiblesse, mais c'était mal vu. Donc, ce que ça a créé aujourd'hui, c'est que les hommes, encore aujourd'hui, puis c'est sûr qu'avec le temps, la courbe commence à s'aplatir, mais on voyait des hommes qui ne savaient pas comment parler de leurs émotions. Mm-hmm. On parle de quand un homme a besoin d'aide, souvent c'est soit avec de l'humour, soit c'est je vais être capable de m'arranger tout seul. T'sais, c'est beaucoup de convaincre l'homme de si tu as besoin d'aide, c'est pas une mauvaise chose. Mm-hmm. Ça, c'est le problème central de, mm-hmm, tout homme. Mm-hmm. Peu importe c'est quoi la nature du problème par la suite, la stigmatisation de la relation d'aide face à l'homme est le plus gros problème, tant qu'à moi, là, qu'on fait face là, encore, mm-hmm, aujourd'hui, là, malheureusement.
Pouvez-vous expandre, en tout cas,
oui, oui, oui,
davantage ça?
Oui, absolument. Ben, tu sais, mettons, le côté de la relation d'aide, c'est que ça revient encore à la première partie de ma réponse. Les hommes, lorsqu'on a besoin d'aide, il y a encore une grande, grande partie d'hommes qui ont attendent à la dernière minute. Tu sais, si, mettons, je suis allé chercher justement là, quelques données là-dessus, là, les hommes, encore en date de 2022-2023, le taux de suicide est 3 fois plus haut que chez la femme. 3 à 4 fois plus haut en date de 2022, puis ça n'a pas changé depuis le temps, là. On parle aussi qu'au niveau de tout ce qui est délinquance, la violence, la criminalité, puis la criminalité autant dans la violence que la criminalité, tout ce qui est vandalisme, l'homme est surreprésenté face à la femme. Tu sais, on parle de, si je ne me trompe pas, on parlait de 2 à 3 fois la représentation d'une femme dans toutes les criminalités.
Parce qu'il fait de la violence.
Exactement.
Mais je crois qu'il est victime aussi dans le sens que le plus grand nombre de meurtres, c'est l'homme qui...
Exactement. C'est souvent homme sur homme.
Ouais,
puis encore une fois, ça montre, tu sais, justement, la nature, peu importe c'est quoi les croyances qu'on a, que ce soit une croyance religieuse, scientifique, peu importe, l'homme est, tu sais, l'homme, puis je parle de l'humain en général, on vient du règne animal. Tu sais, on a des pulsions, on a des instincts qui sont là, puis l'homme, de son côté, vit ces impulsions, ces instincts-là différemment de la femme. La femme qui stéréotypement, a plus de facilité à aller chercher de l'aide, à s'ouvrir, à être émotive et tout ça. L'homme, lui, surtout avec comment que l'éducation s'est faite, on le vit à l'intérieur. Puis on attend à la toute dernière minute pour aller chercher de l'aide, si on va chercher de l'aide. Puis c'est pour ça que des organismes comme Momentum, c'est super important à avoir, parce que pour apporter cette aide aux hommes-là, il faut qu'on adapte à la vision de l'homme. L'homme ne veut pas se faire dire « c'est ça ton problème, c'est ça ta solution ». L'homme veut se faire guider pour qu'il trouve sa propre solution. Puis ça, juste cette nuance-là, ça ouvre une perspective complètement nouvelle sur l'approche psychosociale de l'homme face à l'approche psychosociale envers la femme.
Mm-hmm.
Fait que c'est vraiment, là, on pourrait en parler pendant des heures, là, mais c'est vraiment, là, l'homme a vraiment une stigmatisation qu'il faut qu'on réussisse à passer par-dessus. Puis avec les années, on commence à voir là, que ça s'aplatit, là, le nombre d'hommes qui voient la relation d'aide négativement, mais il y a encore un gros travail à faire là, pour que ce soit normalisé.
Il faudrait trouver un synonyme macho de aide.
Ouais, c'est ça. D'après moi, il devrait avoir un mot quelconque, là, mais il va falloir qu'on trouve un truc en tout cas. Là. Ça, c'est sûr.
Puis, moi, je me souviens que l'homme fort, là, qui ne doit pas avouer sa faiblesse, mais j'avais lu que l'homme est fort, c'est surtout le tronc, je veux dire, à partir des les épaules puis les bras, là, c'est très fort. Mais la femme, les hanches, pour accoucher, ça prend une vraie force. Là,
exactement. Puis la femme, sa force aussi, c'est la force du cœur. La femme est souvent vue dans les statistiques, quelqu'un qui vit plus longtemps, c'est des personnes qui n'ont pas peur de montrer la faiblesse, de montrer ce qu'il y a à l'intérieur et tout ça. Puis on peut voir, c'est sûr que là, les études commencent à ressortir, mais on voit l'effet que ça a. Les femmes ont tendance à vivre beaucoup plus longtemps que l'homme. On parle des fois une 10 à une vingtaine d'années encore aujourd'hui. Puis autant que l'homme est vu pour sa force sur la surface, le niveau de surface de justement le tronc, les bras et tout ça, la force psychologique est là, mais sauf que le problème, c'est que lorsque le problème commence à prendre par-dessus, c'est là que le problème commence. Il faut savoir comment aller chercher cette aide-là puis comment l'apporter à cette population-là, qui a beaucoup de fierté puis beaucoup de force ailleurs aussi. Là.
D'accord. Vous autres, dans les solutions, est-ce que vous avez tout dit jusqu'à maintenant que vous proposez?
Oui. Bien, dans le fond, nous, les solutions qu'on apporte, là, c'est vraiment juste qu'on propose à l'homme de le guider pour qu'il puisse trouver ses propres solutions. Puis non seulement ça, on offre aussi des ateliers qui sont ouverts, qui n'ont aucun autre engagement. Si vous, juste de venir faire un groupe d'écoute, que ce soit un groupe de lecture, que ce soit des activités de groupe plus sportives, l'hébergement aussi pour les pères qui sont en situation de situation précaire au niveau financier, de transitionnel et tout ça. On a vraiment une gamme de services pour toutes les sphères de problématiques que l'homme pourrait vivre finalement là, au jour le jour.
Justement, en télévision, on voit des fois encore des annonces qu'il y a une égalité entre hommes et femmes. Mais on parle surtout des monétaires. Mais je me demande si j'ai jamais vu ou c'est pas. Avez-vous vu des hommes qui disent... C'est injuste, on vit moins longtemps que les femmes, il faut arrêter ça.
d'entendre des hommes dire que c'est injuste, oui, mais c'est souvent dans la même sorte de sphère. Ah oui. Tout ce qui est la sphère, mettons, de la garde de l'enfant, tout ce qui est les sphères surtout juridiques, l'homme est souvent laissé à lui-même, sans nécessairement savoir comment ça fonctionne, il est souvent laissé à lui-même.
Okay.
Fait que non, c'est l'homme dans ses injustices, là, c'est assez spécifique, là, les les problèmes qui nous reviennent.
OK. Fait qu'on va arrêter pour une publicité, puis je reviens tout de suite. Alors, nous sommes de retour à nous le futur, et nous parlons de l'organisme Momentum, avec Sean, qui travaille à cet organisme-là. Donc, nous étions rendus aux solutions. Et vous, est-ce que, comme organisme, est-ce que vous avez suffisamment de ressources?
Bien,
pardon, quatre. OK.
Allez. Oh, là, je suis là. oui, c'est sûr qu'on a assez de ressources pour les besoins qu'on a. Tu sais, on est un organisme qui fête ses 25 ans le 18 novembre. Dans le fond, on fête notre 25e, puis on n'aurait pas pu vivre 25 ans si on n'avait pas assez de ressources techniquement. Mm-hmm. C'est sûr qu'avec la population grandissante, vient le nombre de problèmes grandissant, vient le nombre de besoins grandissant. C'est sûr que, est-ce que si on pouvait avoir plus d'effectifs, oui, ce serait le bienvenu. Sauf que, est-ce qu'on est en situation de difficulté tragique sans issue? Non plus. Je pense qu'on est dans une bonne position confortable où est-ce qu'on pourrait se permettre d'avoir plus, mais on est capable de vivre avec ce qu'on a présentement.
OK. Et donc, vous ne faites pas de demande d'aide en ce moment pour l'organisme. D'accord.
Exact.
Puis, est-ce que... Bon, on en a déjà dit quelques mots, mais est-ce que les hommes font la demande à temps? On sait que c'est non. Mais
non.
que faire pour... raccourcir la distance entre j'ai besoin d'aide puis je fais la demande?
C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Okay. Le directeur clinique là, à Momentum, la fameuse appellation que j'avais mis dans mon article, là, qui attend à minuit moins une pour aller chercher de l'aide. Mmh. En fait, c'est comme une question qui est assez difficile à répondre dans le sens où pour raccourcir le temps de l'homme qui a sa problématique puis qui attend justement le dernier moment avant que ça crée des dommages irréparables ou des dommages tout court, c'est vraiment de déstigmatiser la vision de la relation d'aide, mais aussi d'adapter le service pour que ça parle à un homme. Ça a l'air de rien, mais la relation d'aide face à la femme, ça doit être convivial, ça doit être chaleureux, ça doit être une place où est-ce qu'on peut sourire. Pour l'homme... Puis c'est sûr qu'il y a plusieurs profils, mais pour le profil type d'homme qu'on voit souvent, c'est qu'il faut que ça parle à l'homme. Il faut que ce soit quelque chose qui le enlève pas sa position de contrôle sur lui-même. Il faut pas que ça soit quelque chose qui mette son identité. Son identité un peu vulnérable. Faut vraiment adapter le service puis le speech qu'on donne en rapport au service, puis c'est là d'où vient mon travail de promouvoir les services puis de l'aspect communautaire. Il faut que ça parle à l'homme puis qu'on utilise un vocabulaire qui va chercher ça puis qui va faire en sorte que l'homme ne va pas se dire « Non, j'ai pas besoin d'aide. Ce service-là est fait pour moi, finalement. »
Puis aussi, il ne faut pas que ça fasse peur à la femme.
Exact. Il y a tout l'aspect de tu sais, le but, c'est d'avoir l'égalité.
Oui.
Puis l'égalité, on s'entend que par définition, c'est que les deux soient aux mêmes places avec on s'entend. Donc, il ne faut pas faire peur à une partie de la population. Le but, c'est qu'on offre les services à l'homme pour l'aider, pour qu'en société, on fasse notre part pour le bien-être de l'homme, pour que la place égalitaire des deux sexes soit accomplie, finalement. Là.
OK. Fait qu'on peut terminer l'entrevue, à moins que vous ayez un autre message que vous n'avez pas dit jusqu'à maintenant.
Oui. J'ai un dernier message très court, là. Parlant du 25e de Momentum, on fête au Granada, dans le fond, le 18 novembre. On a un souper hommage pour les gens qui ont été là les fondateurs, autant d'aujourd'hui à hier et tout ça. Et on a aussi un spectacle de musique à bouche au Granada, le 18 novembre. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à justement venir voir nos services ou juste d'avoir un bon temps avec un band d'ici, avec musique à bouche. Vous avez juste à vous rendre sur le site du Granada pour aller voir ça.
Bon, mais c'est gentil. Je vous remercie beaucoup, M. Sean Larochelle.
Mais merci à vous.
Vous représentiez l'organisme Momentum et ça a été agréable de parler.
Merci beaucoup.
Et maintenant, nous allons passer à une autre entrevue avec Vitam. Elle a été faite d'avance, là, cette entrevue-là. C'est Vitam, c'est un organisme de recherche sur la santé durable. Et j'ai interviewé Mme Isabelle Côté, qui est une citoyenne partenaire, et Lydiane Vézina-Hym, une chercheuse régulière. Alors, à tantôt, on se revoit. Alors, rebonjour, c'est encore À nous le futur, c'est Claude Saint-Jean qui vous parle. Donc, après ces deux entrevues, c'est moi qui vais dire des mots. Et ces mots, je voudrais préciser un petit peu tout à l'heure ce que je disais à propos de Jane Goodall. Là, tout à l'heure, je l'ai dit en mots spontanés, mais là, je vais lire. C'est parce que Jane Goodall dit que J'essaie de réveiller les gens, de leur faire prendre conscience du danger. Elle parle du danger des changements, des crises et tout ça. Et en même temps, je leur répète qu'il nous reste une marge de manœuvre, que nous pouvons encore réparer les dégâts en nous servant de notre intelligence et en comptant sur la résilience de la nature. C'est ma méthode, pousser les gens à l'action d'abord en leur exposant clairement la gravité de la situation, puis en leur martelant que nous avons encore de bonnes chances de nous en sortir. Alors, justement, c'est ça mon émission, puis c'est la deuxième partie, surtout l'émission, démontrer qu'on peut s'en sortir. Je ne suis pas celui qui va alerter sur les dangers à l'infini, là. Fait que, donc, c'est ça, je suis un petit goût d'or et un peu diminué dans le sens que je m'occupe plus de comment on va s'en sortir. Et face à ça, je me souviens d'une... Cette semaine, je m'imaginais les Beatles, leur chanson « We all live in a yellow submarine ». Puis j'aurais aimé ça l'entendre ici, là. Sauf que c'est pas une musique émergente, on peut pas. Mais j'ai écouté les mots, puis vraiment, c'est très intéressant. Ils disent « As we live a life of ease, every one of us has all we need ». C'est l'essence de l'émission, puis c'est l'essence du message de Buckminster Fuller, tu sais, que je vous dis, que je vous répète, ou bien qu'aujourd'hui, que Kate Raworth dit dans la théorie du donut, une zone juste et sûre pour l'humanité, en respectant le plancher social et le plafond écologique, ou encore, Éloi Laurent, dans son livre « Ici, la santé guider le monde », qui nous parle d'une boucle sociale écologique. Fait que ce qu'on veut, c'est le confort, être confortable, tu sais, « live at ease », et puis que tout le monde ait tout ce qu'il faut pour bien vivre, c'est ça qu'on veut, c'est ça dont les Beatles parlaient dans leur chanson « Yellow Submarine ». Et le réseau d'éclaireurs de Sherbrooke, ça c'est une... Si vous pouvez vous abonner à ça, vous allez recevoir une infolettre. J'apprends d'eux qu'il va y avoir un atelier avec Catherine Larouche du Baobab, « Développer une culture de la reconnaissance ». Ça, c'est le 22 octobre. Fait qu'elle va parler de la gratitude et puis valoriser les contributions individuelles et collectives. Fait que c'est, ça, c'est super, c'est bon. Ouais. Je vous encourage. 22 octobre, 6h30 à 8h30 le soir, au Baobab. Et bon, c'est pas mal tout. Abonnez-vous à ça, là. Réseau d'éclaireurs de Sherbrooke. Et puis, André Fauteux, l'auteur de la revue Maison du 21e siècle. Ça aussi, vous pouvez vous abonner. C'est gratuit, une infolettre par semaine. Puis, il y a un petit chapitre, un petit paragraphe où il disait que la prédisposition génétique seule explique moins de 10 % des cas de cancer. Et le mode de vie combiné à la génétique représente à peine 50 % de tous les cas, selon la doctoresse Anne Sasko, S-O-S-C-O, qui a dirigé pendant 9 ans l'unité de recherche épidémiologie pour la prévention du cancer du Centre international de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé. Donc ça, c'est semblable à l'entrevue qu'on a eue tout à l'heure, là. Fait que l'autre 50 % des cas de cancer, c'est causé par la pollution chimique, physique, biologique, selon elle. Bon, OK. Et puis, bien, le collectif Échec à la guerre, c'est la 15e campagne annuelle de coquelicots blancs. Je vous encourage, ça aussi, à vous abonner à une infolettre du collectif Échec à la guerre. Au secours, c'est très bon. Ça aussi, abonnez-vous, vous allez avoir une belle infolettre. Ils nous donnent un guide ici pour parler à ceux qui se présentent au conseil municipal là, sur la question de l'eau. C'est quoi les bonnes questions sur l'eau? Par exemple, comment améliorer l'accès à l'eau sur le territoire de la municipalité? Puis justement, en Estrie, ces temps-ci, il y a des gens qui importent de l'eau. Tu sais, c'est pas d'allure au Québec, là. Fait qu'il faut vraiment s'occuper de ça. Allez voir au secours et faites vos revendications, vos suggestions aux conseillers et conseillères qui se présentent pour les élections municipales, soit comme conseiller, soit comme maire ou mairesse, d'accord? Et suivez virauvert.org qui vont... eux autres s'occupent de l'environnement au cœur des élections municipales du 2 novembre 2025. Au secours, là, j'ai justement un document qui dit « Faciliter l'accès gratuit à une eau potable fraîche et non embouteillée, un outil pour y parvenir. » Et je vous parle, bon, aussi quelques minutes, là, de Roméo Bouchard, je vous suggère d'aller voir dans sa page Facebook le 5 octobre. Il parle du rôle central des citoyens dans le territoire de leur communauté pour justement les élections municipales. Nous devons penser à faire un conseil ou une assemblée citoyenne permanente, démocratique, avec un local et un fonds minimum qui serait fourni par la ville pour que cette assemblée citoyenne puisse soit collaborer avec les décideurs, soit avoir un rôle de vigilance, d'initiative et de contestation aux besoins, tout en voulant faire des propositions s'il y a lieu. C'est ce que Roméo Bouchard disait. Il terminait en disant que le code municipal doit avoir une queue démocratique. Alors, je ne sais pas exactement c'est quoi que le code municipal a besoin, tu sais. Mais allez voir Roméo Bouchard le 5 octobre dans sa page Facebook. Et puis, il y a eu une lettre dans la presse. Ça s'appelle « Prescription pour une santé planétaire ». Les co-signataires proposent de s'assurer que chaque personne demeure à moins de 300 mètres d'un espace vert avec une bonne biodiversité. Ils écrivent qu'il devrait y avoir une journée nationale d'action pour la santé planétaire. L'Association québécoise des médecins pour l'environnement emboîte le pas à l'Association canadienne des médecins pour l'environnement pour faire prendre conscience que la santé humaine dépend de la santé des écosystèmes. Alors, en accélérant les capacités des systèmes de santé à prendre soin des gens, il existe des seuils des processus biophysiques qui assurent la stabilité de la Terre. La stabilité, je parle trop vite. Hein. Donc, il faut que les directions régionales de santé publique travaillent en amont de chaque projet pour bonifier tout en protégeant la santé environnementale et humaine. Il faut qu'elles mettent la santé au cœur de toutes les politiques publiques. Il faut redonner une place à la nature dans nos milieux de vie. Il faut créer des espaces de vie résilients et beaux, disent les co-signataires de cette lettre-là. Et quatrièmement, il faut que des mesures fortes soient apprises vers le transport actif et collectif. Donc, ces quatre prescriptions sont réalistes. Les modèles économiques démontrent très clairement que ces propositions sont financièrement fructueuses. Elles donnent des bénéfices sociosanitaires. Fait que vous pouvez aller voir dans la presse, ce sont les prescriptions pour une santé planétaire. Alors, je termine l'émission avec ça. Salut tout le monde, à la prochaine!